Olivier Danos qui va nous parler des thérapies géniques. Olivier Danos est né en 1957, il est docteur en sciences. Il a commencé sa carrière à l'Institut Pasteur en travaillant, je vois dans son curriculum qu'il a son travail de thèse, il l'a fait sous la direction de quelqu'un qui était là samedi dernier, de Moshe Yaniv, qui nous a parlé du cancer. Il est entré ensuite au CNRS. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS et il dirige l'unité de recherche associée outils et stratégies pour le transfert de gènes thérapeutiques. Il est directeur scientifique du Généton, centre de recherche et d'application sur les thérapies géniques à Évry. Donc il est véritablement une personne extrêmement qualifiée pour nous parler des thérapies géniques, des perspectives et de l'état, je dirais, de ces entreprises. Merci, je vous cède la parole.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation à venir donc vous parler de thérapie génique aujourd'hui. Ça n'est pas assez fort, manifestez-vous au fond si ça n'est pas assez fort. Bon, je vais élever un peu le ton. Bien, je voudrais commencer avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire essayer de savoir ce que c'est que la thérapie génique, quelles sont les idées autour de ça, ce qui n'est pas forcément évident à premier abord, c'est-à-dire on peut se dire, est-ce une médecine parallèle, est-ce que c'est une opération pour faire entrer les OGM dans les pharmacies. Donc on va essayer de revenir un peu là-dessus, mais je crois que dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir pourquoi ces choses arrivent maintenant. Et pour ça, je vais revenir sur quelques éléments qui ont sans doute été décrits hier soir par Jean-Louis Mandel, donc qui rappellera quelque chose à ceux d'entre vous qui étaient à cette conférence hier soir. Donc, je vais m'aider de la première diapositive, qui est la couverture d'un magazine scientifique américain, une couverture récente du magazine Science, qui consacre un numéro spécial aux études sur le génome. Vous le savez, l'accumulation de connaissances depuis 20 ans maintenant en biologie moléculaire culmine véritablement aujourd'hui avec le décryptage des génomes de la bactérie jusqu'à l'homme. Donc ce qu'on se propose, c'est de comprendre les organismes à travers l'information qui est à l'intérieur de chaque cellule et on décrypte la molécule d'ADN. Entre parenthèses, ce qu'évoque ce dessin, c'est qu'il y a en fait peu de changements dans l'approche de la biologie entre ce qui a été fait au cours des siècles de décryptage également, mais au niveau de l'anatomie ou de la botanique. Là, on accumule des données de la même façon. Ces données, ce qui va être critique de faire maintenant, c'est de leur donner un sens et de canaliser un peu leur accumulation, l'accumulation exponentielle qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est véritablement sous ce nouvel éclairage qu'on cherche aujourd'hui à comprendre les phénomènes biologiques, des plus simples quand il s'agit d'interactions entre molécules dans la cellule, aux plus complexes quand ça implique des populations. Vous le savez, aucun champ du savoir biologique n'est à l'abri du génome aujourd'hui. Ça va des études sur l'évolution, où on recherche dans le génome les traces des changements. Les études sur les populations, sur les migrations, sont également tributaires des connaissances sur le génome aujourd'hui. La différenciation du vivant de la même façon. Donc, on est véritablement en présence d'une révolution scientifique, si on veut, dans le sens où on donne un nouvel éclairage et on apporte de nouveaux outils et de nouveaux concepts qui sont extrêmement féconds, qui donnent lieu à de multiples hypothèses, de multiples approches nouvelles. Bon, les éléments, les joueurs là-dedans, on les connaît, je les rappelle très simplement. Donc, l'organisme est composé de cellules et dans ces cellules, il y a un noyau. Dans ce noyau, ce noyau contient l'information à l'intérieur des chromosomes, l'information génétique portée par la molécule d'ADN. Et ce qu'on décrypte aujourd'hui, c'est ça, la structure intime de ça. Et on va essayer maintenant, le jeu va être d'essayer d'établir à l'inverse les relations qui nous aideront éventuellement à comprendre un peu mieux ce qui se passe là-dedans. Il faut savoir, vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus après, il faut savoir que, bien entendu, on ne va pas lire à livre ouvert là-dedans. Et qu'on parle beaucoup de l'association décryptage thérapeutique. Ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui aussi, c'est que même si L'idée est très puissante, les techniques qu'on a sont éventuellement très puissantes. Il y a quand même pas mal de chemin de la coupe aux lèvres. Et en fait, tout commence avec maintenant ce décryptage. Simplement, les choses ne vont pas être aussi simples et aussi rapides, surtout, qu'on veut bien nous le dire parfois. Bien, donc, si on revient à cette interprétation des phénomènes biologiques à travers l'ADN, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est la compréhension des dysfonctionnements, petits et grands, qui nous affectent tous, qui sont les maladies, essayer de comprendre le déterminisme génétique de ces maladies. Est-ce qu'il y a des bases génétiques aux maladies? Est-ce qu'il y a toujours une base génétique? Est-ce qu'il y a un petit peu une base génétique? Et c'est sans doute ce dont a parlé avec beaucoup d'expertise Jean-Louis Mandel hier soir. Le principe de base, rappelons-le, donc on a l'information qui est utilisée par la cellule pour produire, disons, des protéines. Voici une protéine, composant essentiel de la cellule, et à cette protéine va être liée une fonction. Si cette fonction disparaît, lorsque l'information comporte une lésion, c'est-à-dire lorsqu'il y a une rayure sur le disque, lorsqu'il y a une page qui manque, ça se traduit par une perte de fonction, et cette perte de fonction éventuellement se traduit par un dysfonctionnement. Donc, cette relation, ce type de relation est simple. Simple peut être décrit dans un certain nombre de cas de maladies génétiques. Il y a une activité énorme aujourd'hui autour de tentatives de décrypter des dysfonctionnements plus compliqués, comme des maladies comme le cancer ou les affections cardiovasculaires, à travers des erreurs du génome qui, dans ce cas-là, sont multiples. Donc là, c'est quelque chose qui est très ambitieux, mais il faut dire qu'une lecture attentive et experte du génome apporte effectivement des informations, même sur des maladies qui, a priori, n'ont pas de base génétique simple. Bien, un exemple simple, celui-ci, et je m'intéresse au muscle. Je reprendrai des exemples autour du muscle plusieurs fois dans cette conférence. On a ici, je ne sais pas si on peut voir très bien, mais on a ici une couple d'un muscle squelettique. Il s'agit véritablement d'une tranche de jambon qu'on regarde au microscope. Et ce que vous voyez ici, coloré, ce sont les fibres musculaires, qui sont des cellules géantes qui constituent le muscle. Et ce sont ces cellules qui contiennent l'appareil contractile, qui permet donc au muscle d'assurer sa fonction. Et essentiellement, on repère ici une protéine qui est à la membrane, à l'extérieur de la fibre musculaire et qui assure sa solidité. Hein, lorsque le muscle se contracte, la membrane de cette cellule est soumise à des efforts, enfin à des stress extrêmement importants. Et il y a tout un édifice de protéines qui font en sorte que cette chose résiste. Donc voici, on utilise un anticorps pour révéler la présence de cette protéine. Qui est figurée ici, et cette protéine est codée, bien entendu, par un gène. Donc ça se traduit, ici on voit mieux l'histologie du muscle, avec les fibres qui ont des noyaux. Hein. À l'intérieur de ce noyau se trouvent des chromosomes avec le gène qui est utilisé pour produire, entre autres, cette protéine ici, qui assure la fonction musculaire. Lorsque ce gène est lésé, la protéine disparaît. On voit ici sur une coupe faite chez un animal où le gène est absent. Donc on constate que la protéine n'est plus là, bien entendu. Et ça se traduit ici au niveau de l'histologie par une désorganisation complète du muscle. Vous voyez que là, les fibres vont absolument mal, c'est-à-dire qu'après l'effort, elles sont détruites et elles ont beaucoup de mal à se réparer. Et ça se traduit par une dystrophie musculaire, c'est-à-dire une faiblesse progressive, généralisée, une destruction de tous les muscles. Toutes ces fibres, à terme, seront détruites, elles seront remplacées par du tissu fibreux, donc une atteinte gravissime. Mais dans ce cas-là, on peut la mettre directement en relation avec une altération particulière dans un gène donné. Alors, bon, voici encore cette image de muscles en cours de destruction ici. Donc, ce dont on dispose, c'est des outils pour comprendre tout ça. Je rappelle également qu'on dispose aujourd'hui aussi de techniques qui nous permettent ad libitum de manipuler l'ADN. Quand je parle de manipulation, il n'y a pas de côté péjoratif à ça. Je veux dire, on peut faire véritablement de l'ingénierie des acides nucléiques, et en particulier de l'ADN. On dispose d'enzymes, on dispose de chimie, qui nous permettent véritablement de faire ce qu'on veut avec cette information. Donc là, la génétique et la biologie moléculaire accouchent des biotechnologies. On a des outils pour agir éventuellement sur l'information et sur ces maladies éventuellement. Donc à partir de ça, parmi les applications de la biologie moléculaire, on envisage d'utiliser l'information génétique à des fins thérapeutiques. Et c'est là qu'on en arrive à l'idée de thérapie génique. Et c'est ce qui va retenir notre attention maintenant. Alors, la thérapie génique, commençons par en donner une définition très générale. On peut dire que c'est un ensemble d'approches thérapeutiques, essentiellement ce sont des hypothèses aujourd'hui, j'y reviendrai, approches thérapeutiques qui sont basées sur le transfert d'informations génétiques dans le but soit de combler un déficit, c'est l'exemple qui est illustré ici, soit éventuellement, de manière plus complexe, de stimuler une fonction réparatrice ou protectrice. Alors, comment fait-on ça? Quel est le champ d'application? Quels sont les outils? Et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Je vais essayer de faire le point là-dessus, en donnant quelques exemples, sans essayer d'être exhaustif et de dresser un catalogue qui serait fastidieux. Je crois que ce qui est important, c'est de donner la notion que on a effectivement quelque chose qui permet d'imaginer extrêmement largement, et dans certains cas, vous le verrez, d'agir effectivement sur certaines pathologies. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est donc de reprogrammer la cellule malade, ou une de ces cellules, une cellule voisine, par exemple, dans le but de soigner. Alors, le transfert de matériel génétique d'un individu à l'autre, c'est quelque chose qui est répandu dans la nature. Ça se passe entre hôtes et parasites. Ça se passe lorsqu'un virus infecte une cellule. Les virus sont faits pour transférer des gènes dans les cellules. Ils le font généralement pour dicter à la cellule de faire plus de virus. Et ce sont des choses qu'on a effectivement compris au cours du siècle qui vient de s'écouler. Entre autres, dès 1944, des chercheurs américains, l'équipe d'Avry, ont remarqué que des bactéries mises en présence d'ADN dans des conditions particulières pouvaient changer de caractère. Et ont donc, c'était la première évidence que l'ADN était véritablement chargé d'informations et pouvait transférer des caractères. Donc, au cours des années 60, on a ensuite appris à cultiver les cellules et on a appris à par différentes méthodes, introduire de l'information génétique à l'intérieur de ces cellules. Et c'est vers la fin des années 60, avec l'identification des premiers gènes, en fait, chez les mammifères, des premières associations entre gènes et maladies, qu'est venu très naturellement et très simplement le concept de thérapie génique. Si on dispose du gène d'une part, est-ce qu'il ne serait pas possible de le réintroduire dans la cellule malade pour guérir la cellule? Donc vous le voyez, quelque chose de simplissime. Simplement, à l'époque, on n'avait pas des outils tout à fait performants pour le transfert de gènes. C'est quelque chose qui s'est développé dans les 20 années qui viennent de s'écouler. Et aujourd'hui, il y a une activité très importante autour du développement des technologies pour la thérapie génique. Et il y a également un certain nombre d'essais cliniques qui sont en cours. Nous reviendrons là-dessus. Alors, à partir de ces données de base, on va maintenant rentrer peut-être un peu plus dans le détail de la façon dont on souhaite procéder. Je reste encore à un niveau général pour essayer de définir trois catégories d'approches thérapeutiques dans lesquelles on va utiliser des gènes. Alors, il s'agit donc de modifier une cellule pour qu'elle fasse quelque chose dans un but thérapeutique. D'accord. Le premier cas de figure est sans doute un des cas les plus simples, et j'illustrerai chacun de ces cas par la suite. Le premier cas de figure est celui où on va dicter à la cellule, en la reprogrammant avec des gènes, on va lui dicter de fabriquer une protéine qui aura un effet thérapeutique. D'accord ? En fait, là, ce qu'on souhaite faire, c'est faire avec des gènes ce que l'on fait déjà en injectant à certains malades des protéines qui leur manquent. On peut penser à l'insuline, par exemple, dans le cas diabétique, ou à des facteurs de coagulation, dans le cas des hémophiles. Ici, on se propose de reprogrammer un groupe de cellules dans l'organisme qui va, chez le malade, se mettre à produire, synthétiser comme une petite usine, ces protéines thérapeutiques. Alors, les applications sont donc dans le cadre des déficiences innées d'un facteur sécrété, comme ce que je viens de mentionner, certaines hormones. On peut également concevoir, et là c'est encore l'imagination au pouvoir, mais on peut concevoir de faire synthétiser à des cellules de l'organisme des protéines qui auront, par exemple, des activités antivirales, voire antibactériennes. Donc, installer une sorte d'immunité par une modification génétique de cellules. Deuxième cas de figure envisagé, c'est le cas où on va installer dans l'organisme un puits métabolique, c'est-à-dire quelque chose qui va être là, un groupe de cellules qui va permettre de détoxifier. Il y a un certain nombre de maladies, entre autres des maladies métaboliques, dont les bases génétiques sont la plupart du temps très bien connues, qui conduisent à l'accumulation de poison dans l'organisme. Et le but, là, est véritablement d'éliminer ce poison. Ça concerne aussi des pathologies plus répandues, par exemple les affections cardiovasculaires, où on accumule, par exemple, le cholestérol dans le sang. On pourrait penser, avec certains gènes, modifier des cellules qui permettront de détoxifier. Troisième approche, on modifie là une cellule spécialisée et on est dans le cas de figure que j'ai présenté avant avec le muscle où dans un type cellulaire particulier, il manque une fonction spécialisée et là simplement on rapporte la fonction, on corrige la cellule donc de manière plus classique je dirais. On peut aussi mettre dans cette catégorie les stratégies qui envisagent de modifier la cellule afin, par exemple, de les rendre résistantes, encore une fois, à des infections virales ou bactériennes. Donc on peut penser prendre des cellules qui sont la cible d'affections particulières. Prenons, par exemple, les lymphocytes CD4 dans le cas de l'infection avec le virus de l'immunodéficience. Est-ce qu'il serait possible de rendre une partie de ces lymphocytes chez des patients infectés résistants à l'infection par le VIH ? C'est une question que l'on pose et ce sont des modèles qui sont à l'étude dans les laboratoires. On peut également réfléchir à des approches destinées à des thérapies anticancéreuses avec ce type de schéma. Une des approches, très brièvement, serait par exemple un des problèmes dans le cancer, si on simplifie un petit peu, c'est que les cellules tumorales qui prolifèrent de manière anarchique ne sont plus reconnues par le système immunitaire. Et donc, le système immunitaire est incapable de les détruire, est incapable de faire face à cette invasion. Il y a des moyens, on peut imaginer des moyens. Parce qu'on commence à connaître les déterminismes et les gènes, on peut imaginer des moyens de rendre les cellules tumorales plus visibles par le système immunitaire et de faire en sorte que le système immunitaire les détruise plus efficacement. Donc ça rentrerait dans ce type de schéma. Bien. Alors, donc, une remarque encore une fois à propos de ces différents schémas. Vous le voyez, on part d'un schéma, on part d'une situation simple où il y a un gène, une fonction, le gène manque, la fonction manque et il y a une maladie. Donc, quelque chose des maladies qui sont dues à une lésion, très simplement, et où on peut établir une relation non ambiguë. On peut imaginer un schéma thérapeutique simplement à partir de ça, mais aujourd'hui, on s'intéresse à des cas beaucoup plus complexes, où même si l'étiologie moléculaire n'est pas complètement établie, le cancer, les maladies cardiovasculaires, c'est des choses très compliquées, on peut déjà, avec du transfert de gènes, de manière plus empirique cette fois-ci, imaginer des interventions possibles. Alors, je voudrais en venir maintenant aux outils du transfert de gènes. Comment se propose-t-on de modifier ces cellules ? Et est-ce qu'on va modifier ces cellules après les avoir purifiées, ou est-ce qu'on va les modifier directement dans l'organisme du patient? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ces outils, on les appelle vecteurs, parce qu'ils transportent l'information génétique, enfin, c'est ce qu'ils doivent faire, ils doivent transporter l'information génétique, l'ADN, l'acide nucléique, de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur. Ce sont donc des vecteurs. Et on les élabore la plupart du temps. On les élabore soit à partir de virus, nous allons voir, ou alors à partir d'éléments chimiques, d'éléments synthétiques, ou encore il est possible éventuellement de forcer par des méthodes physiques l'entrée d'un acide nucléique à l'intérieur de cellules. Alors, si on fait un petit peu la liste de ce que doit réaliser un vecteur de transfert de gènes pour pénétrer à l'intérieur d'une cellule, donc ça c'est une représentation un petit peu hollywoodienne, je dirais, de la cellule, mais qui met bien en évidence le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un sac dans lequel les choses vont diffuser facilement. Il y a énormément de barrières naturelles qui sont sur le chemin de quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui devrait aller véritablement à l'intérieur du noyau, ici, et trouver un endroit pour que le gène soit exprimé. Donc il faut franchir une première membrane, une membrane plasmique ici. En général, il n'y a pas véritablement franchissement. D'ailleurs, il y a absorption par la cellule de particules que l'on présente. Et puis ces particules doivent être libérées ici dans le cytoplasme, doivent cheminer tant bien que mal vers le noyau. Dans le noyau, on n'y entre pas n'importe comment. Il y a également tout un mécanisme qui doit être mis en place pour pénétrer à l'intérieur. Le matériel génétique qui est apporté doit éventuellement s'intégrer au matériel génétique de la cellule, c'est-à-dire véritablement devenir partie du chromosome, ou alors trouver un moyen d'être maintenu à l'intérieur sans que la cellule le rejette. Ensuite, quand ce matériel génétique, quand cette nouvelle information est là, il faut qu'elle puisse être exprimée, c'est-à-dire qu'elle conduise à la synthèse d'une nouvelle protéine, par exemple, et éventuellement, il faut qu'elle le fasse pas n'importe comment. Il faut qu'on puisse réguler de manière adéquate l'expression de ce gène. Donc, vous voyez qu'il y a, c'est un cahier des charges qui est très très lourd, et fort heureusement pour nous, les virus ont évolué pour faire une grande partie du chemin déjà. Alors, je présente ici trois familles de virus dont on a déjà, tiré des vecteurs viraux, et ils sont très divers. Je voudrais insister un instant sur la grande diversité des stratégies que les virus utilisent pour pénétrer dans une cellule pour la kidnapper véritablement, pour qu'elle se mette à synthétiser du virus. On a ici un adénovirus, qui est un virus tout à fait commun, qui nous infecte tous, qui donne des rhumes. Ici, un parvovirus, qui est en fait un parasite de l'adénovirus. C'est quelque chose qui n'est pas associé à une pathologie, mais c'est un parasite de l'adénovirus qui fonctionne tout à fait différemment, mais qui utilise un peu l'adénovirus pour parvenir à ses fins. Il y a beaucoup d'intérêt autour des parvovirus et il présente beaucoup d'intérêt dans certaines situations de transfert de gènes. Puis ici, on a un rétrovirus, en particulier un lentivirus. Je rappelle que le virus de l'immunodéficience humaine est un lentivirus, donc ce sont des virus qui ne sont pas forcément anodins. Il y a une grande diversité également à l'intérieur de chacune de ces familles. Donc ils adoptent des stratégies très différentes. L'adénovirus, par exemple, est un virus extrêmement violent qui pénètre dans la cellule, qui fait très vite beaucoup de virus et qui se propage comme ça. Alors qu'un rétrovirus, c'est quelque chose qui a une stratégie entièrement différente, où il y a plus une guerre d'usure, il entre dans la cellule peu efficacement, mais une fois qu'il y est, il y reste pour toujours, et il est en fait beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Alors, cette diversité des virus, elle est aussi sur ce tableau, qu'on ne va pas lire dans le détail, simplement c'est pour dire que... C'est pour dire que les virus sont donc des particules qui, dans une enveloppe de composition variable, il peut y avoir là-dedans des lipides, des protéines, des sucres, etc., à l'intérieur de cette enveloppe contiennent un génome, un ensemble d'informations génétiques, et ce génome peut être de l'ADN, Il peut aussi être de l'ARN, qui est l'autre forme d'acide nucléique. Et dans le cas de l'ADN, ça peut aussi être de l'ADN qui est fait d'une double hélice ou bien d'un brin, d'un simple filament. Donc tout ça, sans qu'il soit possible ici d'entrer dans les détails, tout ça nous procure des façons différentes d'envisager les choses et des façons différentes de s'adapter à différentes situations pathologiques et différentes hypothèses thérapeutiques. Ce qui est mentionné en jaune ici, ce sont tous les virus qui parmi ceux-ci, ont déjà été utilisés in vivo, c'est-à-dire soit dans des modèles animaux de maladies, pour tester des traitements, ou même dans le cadre d'essais cliniques. Voilà. Et ça, c'est une toute petite liste du monde des virus. C'est quelque chose qui est d'une très très grande diversité. Alors comment fait-on un vecteur viral ? J'ai essayé de, malgré la grande diversité des virus, il y a un certain nombre de principes généraux qui restent, et on a toujours un petit peu le même type d'approche. Donc on part du virus qui, dans son enveloppe, je le redis, contient un ensemble d'informations génétiques, et on va faire deux choses. On va travailler d'une part sur cette information génétique, on va travailler sur deux types d'éléments à l'intérieur de cette information génétique. On a d'abord une série de séquences qui ne sont pas codantes, c'est-à-dire qui n'apportent pas d'informations pour les protéines du virus, mais qui sont utilisées régler la mise en route de cette information à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle les séquences régulatrices. On peut donc, par génie génétique, isoler les séquences régulatrices des gènes viraux eux-mêmes, c'est-à-dire des gènes qui, eux, codent pour les protéines. Donc on peut séparer les deux, hein. C'est comme en cuisine, c'est-à-dire qu'on sépare véritablement les blancs des jaunes ici pour ensuite les remettre ensemble. On sépare d'une part les gènes viraux et d'autre part les séquences régulatrices. Ces séquences régulatrices sont maintenant mises en association, non plus avec les gènes viraux, mais avec le gène que l'on désire transférer, ce que j'appelle ici gène d'intérêt. Et on obtient donc une construction recombinante qui ressemble à un génome viral, mais qui ne contient plus d'informations pour faire des virus. D'accord ? L'information qui est maintenant contenue et qui est contrôlée par les séquences virales, c'est l'information thérapeutique, éventuellement, que l'on veut transférer dans la cellule. Bon, maintenant, à partir de ça, il faut pouvoir refaire quelque chose qui ressemble à un virus. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle une cellule d'empaquetage, un système d'empaquetage, et ces systèmes sont toujours cellulaires, parce que pour fabriquer du virus ou du vecteur viral, il faut passer par une cellule. C'est des choses qu'on ne sait pas faire, sauf dans des cas très particuliers, mais enfin en général qu'on ne sait pas faire in vitro, de manière complètement synthétique. J'y reviendrai aussi. Donc, on conçoit et on utilise des systèmes cellulaires dans lesquels on va s'arranger pour que les gènes viraux soient synthétisés et que, en fait, ces systèmes cellulaires produisent des particules virales vides. En introduisant la construction recombinante à l'intérieur de ces cellules, on est capable, cette fois-ci, de fabriquer ce qu'on appelle le vecteur viral, à savoir quelque chose qui a l'aspect, qui est une particule virale comme le virus de départ, mais qui, à l'intérieur, ne contient pas un génome viral, mais contient le gène d'intérêt thérapeutique. Alors, l'intérêt de ça, c'est que cette particule, elle a tout ce qu'il faut pour entrer dans une cellule cible. Elle sait reconnaître des récepteurs, elle sait faire ce trajet compliqué dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle sait déposer cette information génétique à l'intérieur de la cellule. Et ce qu'elle dépose maintenant, c'est le gène thérapeutique, et ça n'est plus l'information virale. Donc c'est là la chose importante. Donc il y a de multiples variations sur ce thème qui s'adaptent à la diversité des virus eux-mêmes et des situations rencontrées. Alors, quels sont les problèmes qui sont liés à la conception et à l'utilisation de ce type de vecteur ? D'abord, le procédé de fabrication est en général assez compliqué. D'accord ? C'est un peu plus compliqué souvent que la synthèse chimique d'un médicament, bien que certaines peuvent être aussi très compliquées. C'est quelque chose qui est lourd, si on essaye de l'imaginer à un niveau industriel, c'est-à-dire dans l'industrie pharmaceutique, quelque chose qui est éventuellement extrêmement coûteux. D'autre part, l'utilisation de quelque chose qui est dérivé d'un virus, ce n'est pas complètement anodin. C'est fait, je vous le rappelle, dans le cas de la fabrication de vaccins, mais ici, on se propose vraiment de faire tout autre chose. Utiliser un virus chez un patient, ça pose a priori un certain nombre de problèmes de sécurité qu'il faut absolument traiter. Et pardon, je crois que je reviendrai sur ces points. Je voudrais simplement illustrer le pouvoir d'un vecteur viral qui là est dérivé d'un adénovirus. Vous avez ici donc une image en microscopie électronique d'un adénovirus. Encore une fois, il a tout ce qu'il faut pour rentrer dans la cellule. Il a ses petites pointes ici, reconnaissent une molécule particulière à l'extérieur de la cellule, et ça lui permet d'entrer très efficacement. Ce qu'on sait faire, donc, c'est mettre à l'intérieur de cette petite particule un gène thérapeutique. Et on peut faire une préparation de cet adénovirus recombinant, de ce vecteur adénoviral, et l'injecter chez un animal, par exemple, dans différents tissus ou organes. Je reprends ici l'exemple du muscle de tout à l'heure. C'est une autre vue histologique du tissu musculaire. Vous reconnaissez ici les fibres qui sont ces cellules géantes. Et en bleu, on a les noyaux de ces fibres. Vous remarquez qu'à l'intérieur de ces noyaux, on voit des points jaunes, et chacun de ces points jaunes est en fait, sont plusieurs génomes recombinants. Ce sont les gènes thérapeutiques qui ont été déposés ici par le vecteur viral après une injection locale dans un muscle squelettique chez la souris. Donc vous voyez que localement, en tout cas, on arrive à des efficacités très importantes de transfert de gènes, et on va le voir là, d'expression du gène thérapeutique. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est simplement ces trois images ici. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est l'image de cette protéine qui est à l'extérieur de la fibre musculaire, qui entoure la fibre musculaire, qui est la dystrophine, et qui assure sa solidité. Donc ça, c'est un animal normal. Ça, c'est un animal qui porte une mutation et qui a une dystrophie musculaire. Donc son muscle n'a plus cette protéine. Et voici ce qu'on obtient après transfert du gène au moyen d'un vecteur adénoviral. Localement, on arrive à reconstituer un nombre très important de fibres musculaires. Et on peut montrer, si on fait des tests d'effort du muscle et on mesure la force du muscle, on peut montrer qu'effectivement, le muscle recouvre un certain nombre de ses fonctions. Alors, tout n'est pas parfait. L'effet est, en fait, dans ce cas-là, transitoire. Beaucoup de problèmes restent à résoudre avant qu'on parle d'un véritable médicament. Mais c'est ce type de preuve du concept qu'on multiplie aujourd'hui et qui nous dit qu'en fait, on est sans doute... Enfin, ce qu'on essaye de faire n'est pas complètement une billevesée. Alors... Bien, je parlais des risques, je voudrais y revenir deux secondes. Donc, les risques au niveau de la sécurité d'un patient pour l'utilisation d'un vecteur viral, c'est la possibilité éventuellement que, malgré tout ce qu'on fait, ce que j'ai expliqué, la préparation soit contaminée par un virus qui est, lui, capable de se répliquer et donc de donner une maladie virale. Alors, je dois dire que c'est quelque chose que l'on contrôle bien. Mais c'est pas parce que, enfin, on sait qu'on le contrôle bien, mais ça doit être contrôlé au niveau de la fabrication d'un médicament éventuellement. Donc c'est une préoccupation, bien entendu, et il y a des tests possibles. Donc on peut effectivement examiner les préparations de vecteurs et se demander si on a ce type de contamination. La réponse immunitaire est un gros problème. Parce que les particules virales, l'organisme a appris à réagir contre. En général, on a même une immunité préexistante. Je parlais de l'adénovirus. La plupart d'entre nous, plus de 80% d'entre nous, ont été infectés, donc ont déjà une immunité contre ce virus. Et si on cherche maintenant à utiliser ce virus pour nous soigner, ça ne va évidemment pas marcher. Alors, il y a des parades, on peut utiliser des formes plus rares du virus, etc. Mais ça reste un gros problème. Je passerai sur ces deux autres éléments qui sont plus des détails. Pas ce dernier qui est le problème de dissémination dans l'environnement. J'ai parlé de construction recombinante où on assemble des morceaux de gènes viraux à un morceau de gène thérapeutique, par exemple la dystrophine. Bon, ce qu'on fait en faisant ça, c'est un organisme génétiquement modifié. Le virus recombinant est un organisme génétiquement modifié, la cellule qu'il reçoit est un organisme génétiquement modifié, et éventuellement le patient lui-même est un organisme génétiquement modifié. Alors, bon, il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. Ce dont on parle aujourd'hui strictement est de transfert de gènes à des cellules somatiques. On a vu ça avec le MUSE, qui est une cellule donc, du soma, et à la suite d'un transfert de gènes dans une cellule somatique, il n'y a pas de danger, théoriquement, enfin, même, il n'y a pas de danger, à part si on a recours à des méthodes de clonage, mais c'est autre chose, il n'y a pas de danger de transmission à la descendance. D'accord ? Il ne s'agit pas de modifier les cellules germinales. Et là, on parle simplement de quelque chose qui relève de la médication, du médicament classique. On soigne une cellule, d'accord ? Donc la cellule elle-même est modifiée génétiquement, mais c'est différent du maïs, parce que le maïs lui, reçoit la modification génétique dans son ensemble, y compris dans ses graines, et c'est ça qui pose des problèmes éventuellement par rapport à l'environnement. Cela dit, il faut bien sûr le vérifier. C'est-à-dire qu'on a beau dire que c'est théoriquement impossible, il faut quand même le vérifier. Et il faut faire des études de toxicologie très particulières avec ce type de vecteur pour montrer qu'effectivement, la lignée germinale n'est pas touchée avant qu'on puisse utiliser cela chez les patients. Bien. Alors, deuxième classe de vecteurs que l'on essaye de faire, devant ces problèmes liés à l'utilisation de virus, la réaction est de dire qu'on va essayer de refaire ça synthétiquement. On va essayer de trouver des vecteurs qui ne soient plus faits à partir de virus, même si les virus marchent relativement bien. On va voir ce qu'on peut faire chimiquement. Alors, on a à notre disposition une série de molécules qui sont capables de s'attacher aux acides nucléiques, à l'ADN, qui sont capables de compacter ces acides nucléiques, donc à l'intérieur de petites particules, et à qui on peut aussi rajouter des fonctions qui permettront le franchissement des membranes, la pénétration à l'intérieur de la cellule. Une catégorie de ces produits est montrée ici. Il s'agit de lipides cationiques. Alors, leur particularité, c'est donc d'avoir une tête polaire, cationique, chargée positivement, qui va reconnaître l'ADN chargé négativement. Et une queue qui ressemble, enfin, qui est un acide gras et qui va pouvoir se mélanger aux membranes, donc faire pénétrer à l'intérieur de la cellule. C'est ça le principe de base. Encore une fois, avec la chimie, on peut imaginer ce qu'on veut et on peut rajouter à ces molécules tout un tas de fonctions, éventuellement même des polypeptides qui vont faciliter le transfert de gènes. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement fécond, qui est exploré très largement par beaucoup de laboratoires, qui a donné des preuves d'efficacité, mais qui aujourd'hui reste bien en deçà de ce que peuvent faire les vecteurs viraux. Et la raison principale, c'est que même si on arrive à faire quelque chose qui ressemble à un virus, certains parlent de virosome, on arrive éventuellement très efficacement à entrer dans la cellule, mais ensuite il manque beaucoup de fonctions que les virus ont pour maintenir le gène thérapeutique à l'intérieur de la cellule. Alors ici, c'est simplement une autre illustration de l'aspect que peuvent prendre ce type de complexe. On a ici une bicouche lipidique qui est formée par le lipide cationique que j'ai montré. Ça ressemble à une membrane. Elle est complexée à l'ADN. Et en rajoutant un autre type de lipide, on change la géométrie de tout ça et on arrive à des structures qui ressemblent plus à des spaghettis avec l'ADN à l'intérieur. Et ce sont ces structures-là qui ont un pouvoir d'entrée dans la cellule éventuellement très important. Donc ça, c'est aussi un autre champ d'investigation extrêmement fécond. Alors après, un mot encore sur les vecteurs de transfert de gènes. Je voudrais insister sur le fait que ce sont toujours des particules qui ont une taille importante. Et ça, c'est quelque chose qui est différent par rapport à un médicament classique qu'on injecte. Beaucoup des problèmes d'utilisation vont être liés à cette taille que j'ai remis ici sur une échelle. Donc cette échelle va de la dimension de l'atome, 0,1 nanomètre, à la dimension de la cellule animale, d'environ une dizaine de microns. Les petites molécules qui sont utilisées en thérapeutique, enfin en médication classique, sont dans cet ordre de grandeur, disons entre 1 et 5 nanomètres. Un tour d'hélice d'ADN, pour vous donner l'idée, c'est-à-dire une dizaine de paires de bases d'ADN se situent dans cet ordre de grandeur. Et vous voyez que les vecteurs de transfert de gènes que j'ai mis ici en orange sont dans une échelle qui est là bien supérieure et en fait qui se trouve par exemple autour de ce qu'est la taille des petits trous qu'on trouve dans les capillaires sanguins au niveau de certains organes. Ça vous dit tout de suite que injectés dans la circulation, ces vecteurs auront déjà du mal à traverser les vaisseaux sanguins, et on y reviendra. Donc beaucoup des problèmes sont aussi liés à cet effet de taille. Bien. Je ne veux pas commenter ce tableau, simplement on peut s'amuser à ce genre d'exercice en prenant chacun des vecteurs viraux, rétrovirus, adénovirus, AAV ou synthétiques, et à mettre en face leurs propriétés et à balancer les avantages et les inconvénients, ici avec vert quand ça va bien, orange quand ça peut s'améliorer, et rouge quand de toute façon ce n'est pas possible. Je ne veux pas commenter ça, simplement je voudrais simplement dire que il n'y a pas de vecteur universel, il n'y a pas de vecteur parfait. Chaque vecteur a un avantage et des avantages et des inconvénients dans une situation donnée. Tous sont en cours d'amélioration et c'est encore un champ de recherche tout à fait ouvert. Alors, ayant vu les outils, on va s'intéresser un petit peu aux stratégies d'application in vivo. Comment est-ce qu'on se propose de faire ce transfert de gènes ? Et je donnerai quelques exemples de réalisation. Alors une première façon de faire est celle qu'on appelle ex vivo, donc on qualifie ça de thérapie génique ex vivo. On prélève chez le patient des cellules qui sont mises en culture et manipulées à l'extérieur du corps du patient, c'est ce qui est représenté ici, et on peut, grâce à un vecteur de transfert de gènes, les modifier génétiquement, donc elles deviennent rouges, et les réimplanter. Alors, ça c'est une première approche. La deuxième approche est d'injecter directement le vecteur, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors cette première approche, ce qu'il faut dire, c'est que avec les vecteurs dont on dispose aujourd'hui, cette étape-là est rarement un problème. C'est-à-dire que lorsqu'on met des cellules en culture, aujourd'hui, la technologie est telle que dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas, dans la plupart des cas, on est capable très efficacement d'effectuer cette modification, et éventuellement avec beaucoup de précision. Le problème le plus lourd dans ce type d'approche est celui-ci, c'est le problème de réimplantation. Donc là, en fait, on est face à un problème de greffe de cellules plus qu'en face d'un problème de transfert de gènes. Voilà, donc quelques illustrations de ce type d'approche. Ici, il s'agit d'un modèle chez la souris, enfin d'une souris qui est affectée d'une maladie métabolique dite maladie de surcharge isosomale. C'est une maladie. Il existe l'équivalent humain de cette maladie, c'est une maladie très rare, mais cette famille de maladies en général est relativement répandue pour des maladies génétiques. Il s'agit par exemple de la maladie de Gaucher, qui est sans doute la maladie de Gaucher est une de ces maladies-là. Donc cet animal, comme vous voyez à côté de son frère bien portant, a un certain nombre de problèmes qui sont visibles à l'état macroscopique, déformations osseuses, et si on regarde, tous les organes sont touchés, il y a une dégénérescence de tous les organes, qui est due ici aussi à l'accumulation d'un produit toxique qui n'est pas métabolisé parce que le gène manque. Ici, il s'agit de l'enzyme qui s'appelle le bêta-glucuronidase, qui dégrade des sucres, et là, ces sucres s'accumulent et c'est très mauvais. Bien, alors ce qu'on a fait, et c'est un exemple de thérapie génique ex vivo, c'est qu'on a pu prélever chez un animal malade, des fibroblastes de la peau, des cellules de la peau, transférer les gènes. Comme je le disais, ça devient rouge. Mais là, c'est parce que la coloration est spécifique de l'enzyme qu'on a. On a rajouté le gène qui code pour l'enzyme manquante ici. Vous voyez qu'au départ, l'enzyme bêta-glucuronidase manque. Ici, on peut la révéler par cette coloration rouge. Donc, on peut, in vitro, à l'extérieur de l'organisme, modifier ces cellules. Et ces cellules, on peut également les réimplanter. Alors, on utilise un truc, en l'occurrence, ici, pour les réimplanter. On les inclut dans un réseau de collagène. Donc, il y a un tour de passe-passe expérimental là, qui fait qu'on fabrique cette petite cette petite éponge pleine de cellules, et on réimplante cela dans la cavité péritonéale de l'animal. Ce qui se passe tout de suite après, c'est que cette éponge se vascularise et forme ce qu'on a appelé un néo-organe ou un organoïde. Et cet organe va être capable de produire de manière continue l'enzyme dans l'organisme de l'animal. Alors, cet animal, je vous ai dit qu'il était malade. Voici une coupe histologique du foie de cet animal. Il n'y a pas besoin d'être hépatologue pour comprendre que cette coupe histologique est parfaitement anormale. Toutes ces inclusions, toutes ces bulles-là sont complètement anormales et sont le signe d'une pathologie très, très lourde. Donc, elles sont dues à l'accumulation de ce produit qui n'est pas dégradé. Après greffe de ces cellules génétiquement modifiées qui produisent dans l'organisme l'enzyme, on arrive à des corrections absolument parfaites au niveau du foie de la pathologie. Alors ça, c'est d'un côté remarquable et de l'autre côté bien insuffisant parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne corrige pas de cette façon-là chez cet animal. Mais simplement, c'était pour illustrer le fait qu'il est possible d'avoir véritablement des signes biologiques d'amélioration absolument nette dans une situation comme ça avec une stratégie de transfert de gènes. Autre exemple qui est important et qui est important historiquement parce que c'est avec ce type de cellules qu'on a au départ pensé à la thérapie génique, le système des cellules sanguines, cellules hématopoïétiques. Alors, les cellules sanguines, en fait, prennent naissance dans la moelle osseuse et où se trouvent des cellules qui sont très rares, qui sont assez peu abondantes, mais qu'on appelle cellules souches. Ces cellules souches se multiplient et se différencient et donnent naissance à, selon la voie de différenciation qu'elles prennent, à tous les lignages hématopoïétiques, c'est-à-dire toutes les cellules matures, tous les éléments qu'on trouve dans le sang, à la fois les cellules du système immunitaire, les cellules T ou les cellules B, les globules rouges, les macrophages, les cellules qui donnent les plaquettes, etc. etc. D'accord ? Alors, il y a beaucoup d'affections qui touchent l'une ou l'autre ou plusieurs de ces cellules différenciées et qui donnent des maladies hématologiques. On pense par exemple aux thalassémies, qui sont des anomalies des globules rouges. Et très tôt est née l'idée que si on arrivait à introduire dès le départ dans la cellule mère, à remettre l'information qui manquait, on pourrait de manière constante et permanente corriger le défaut au niveau des cellules différenciées. Alors, c'est ce genre. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que là, on peut relativement simplement prélever ce type de cellules à partir du sang ou alors à partir d'un peu de moelle osseuse et les manipuler à l'extérieur de l'organisme et ensuite les réimplanter. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des greffes de moelle osseuse, par exemple, ce qui est maintenant quelque chose d'assez courant. Donc, ce type d'étude de transformation génétique des cellules hématopoïétiques a été commencé il y a une quinzaine d'années. Là, c'est un exemple chez la souris. On a introduit dans ces cellules souches un nouveau gène qui apporte une nouvelle protéine. Et cette protéine, c'est simplement une analyse de différents animaux. Et on analyse dans les différents lignages hématopoïétiques, dans les différentes cellules différenciées, on analyse la présence de la nouvelle protéine, qui est ici H, à la suite du transfert de gènes dans la cellule souche. Vous voyez qu'on arrive avec une bonne efficacité à exprimer cette nouvelle protéine dans la plupart des tissus différenciés. Alors, ce type d'étude a donné lieu en fait, au premier essai de thérapie génique en 1990 à Washington, au NIH, où un patient à qui il manque une fonction essentielle pour le développement des cellules du système immunitaire a été traité de cette façon-là. Donc là, on connaît le défaut génétique, c'est une situation simple, il fallait rajouter un gène, et on a traité les cellules sanguines de ce patient qu'on lui a réinjectées. Les résultats ne sont pas évidents. Ces résultats n'ont pas été évidents pendant longtemps. Une des raisons est que ce patient reçoit également un traitement de substitution, et pour des raisons éthiques, on n'a pas retiré, bien sûr, donc il est difficile de faire la part des choses. Cela dit, et c'est là que je veux en venir, Ce type d'intervention a été renouvelé plusieurs fois par de nombreuses équipes cliniques sur différents patients. Et récemment, un essai clinique a été mené ici à Paris par l'équipe du professeur Fischer à Necker sur un patient immunodéficient qui a une autre affection, mais peu importe, avec le même type de protocole. Et là, on a pu véritablement montrer un effet tout à fait remarquable du transfert de gènes, c'est-à-dire que ces patients n'ont absolument pas de système immunitaire, et à la suite du transfert de gènes, plusieurs mois après, presque un an après, ils ont retrouvé un système immunitaire parfaitement fonctionnel. Donc je dirais que là, c'est un cas très particulier, ce sont des maladies incroyablement rares, il y a peut-être moins de 10 patients dans le monde atteints de ces maladies-là, mais c'est un cas où, véritablement, je crois qu'on a fait une démonstration qu'on pouvait avoir une action thérapeutique avec des gènes. Bien, cette diapositive pour montrer simplement que cette notion de cellule souche est très importante aujourd'hui et commence à se répandre à d'autres systèmes, d'autres tissus que le tissu hématopoïétique. On est en train de se rendre compte que ces cellules dites souches dont on pensait qu'elles ne pouvaient donner naissance qu'à des cellules hématopoïétiques, peut-être, et même certainement dans beaucoup de cas, peuvent donner naissance à d'autres tissus, comme le muscle, le cerveau, le foie, les vaisseaux sanguins, etc. Donc ça, c'est très important, ce type d'étude est très important et sera très important si c'est avéré pour les approches de thérapie génique, parce que ça veut dire qu'on va avoir une source intéressante pour la reconstitution de tissus. Et donc ça, c'est quelque chose qui en ce moment retient beaucoup l'attention. Bien, je voudrais passer pour terminer à l'injection directe de vecteurs. Donc là, il ne s'agit plus de sortir les cellules du patient et de le lui remettre, mais d'injecter le vecteur de transfert de gènes et d'espérer qu'il ira trouver sa cible. D'emblée, il y a beaucoup d'obstacles qui sont rencontrés. J'ai parlé de la taille tout à l'heure, et ça fait que ce vecteur va être reconnu par les protéines sériques. J'ai parlé de l'immunité. Il y a des filtres au niveau du foie et de la rate qui vont arrêter tout de suite ce vecteur-là. Il y a l'endothélium vasculaire, j'en ai également parlé, qui va devoir être franchi pour éventuellement aller au-delà et toucher les tissus atteints. Et même si on va au-delà de l'endothélium vasculaire, il y a tout un tas de choses autour des cellules qui peuvent arrêter les particules de vecteurs. Donc c'est un véritable parcours du combattant et les recherches d'amélioration technologique des vecteurs considèrent essentiellement ce cahier des charges-là. Bien, un exemple d'efficacité avec un vecteur, avec une stratégie de ce type, direct in vivo, concerne la distribution de protéines thérapeutiques que j'avais mentionné tout à l'heure. Ce que l'on voit ici, c'est le résultat d'expérience où un vecteur de transfert de gènes contenant un gène pour le gène du facteur 9, du facteur de coagulation, a été injecté dans le foie de souris. Et après une seule injection, on constate, ici en fonction du temps, en fonction des semaines écoulées, on prend des mesures dans le sang des souris qui ont été opérées, et on constate que ces souris se mettent à synthétiser de manière permanente et constante le facteur de coagulation. Ici, il s'agit d'un facteur de coagulation humain. Alors, ce type d'expérience a été réalisé dans plusieurs laboratoires et en utilisant non seulement le foie, mais également le muscle comme cellule pour fabriquer ce facteur de coagulation. Les expériences ont été également réalisées sur des animaux hémophiles, c'est-à-dire qui possédaient, ici il s'agit d'animaux normaux, mais il y a des animaux, des souris et des chiens qui sont hémophiles et qui ont une mutation dans le gène codant pour le facteur 9, et on a constaté qu'on pouvait compenser leur hémophilie. Et ça a donné lieu à l'organisation d'essais cliniques sur des patients humains il y a ça à peu près un an. Les premiers résultats viennent d'être publiés. Une équipe américaine a donc injecté un vecteur de ce type dans le muscle de trois patients hémophiles à qui il manquait le facteur 9. Et ils ont constaté, de la même façon, que le facteur 9 pouvait être synthétisé de manière continue, qu'on pouvait le détecter dans la circulation de ces patients, et qu'on pouvait noter un bénéfice thérapeutique modeste. C'est-à-dire que ces patients, semble-t-il, ont moins besoin de leur traitement, de leur injection régulière de facteurs purifiés. Il faut bien dire qu'on a été prudent, c'est-à-dire qu'on a injecté de faibles doses, ce sont des essais de toute première phase, mais ça aussi, c'est extrêmement encourageant. Ça veut dire que vraisemblablement, on pourra, à relativement court terme, proposer des traitements, dans ces cas-là, avec du transfert de gènes, basé sur le transfert de gènes. Bien, je saute cet aspect-là. Je voudrais simplement montrer un autre exemple d'application du transfert de gènes directement in vivo. Il s'agit cette fois-ci du cerveau. Alors, ce que vous avez, on voit ici, il s'agit d'une image de scanner sur un singe, simplement pour indiquer que on réalise de la chirurgie du cerveau, on a des cartes très précises du cerveau et on peut injecter éventuellement très précisément dans des aires cérébrales touchées par une maladie quelconque des vecteurs de transfert de gènes pour essayer de compenser ça. Alors quelles sont ces maladies ? Bon, c'est très varié, ça peut être des maladies génétiques rares, par exemple celle que j'ai montrée tout à l'heure sur la souris, touche des fonctions neuronales, enfin également toxique pour le cerveau. Donc là, on pourrait penser aussi intervenir au niveau du cerveau, qui, je le rappelle, est isolé. C'est-à-dire que si on produit de l'enzyme en périphérie, l'enzyme ne va pas pénétrer jusqu'au cerveau. Donc si on veut améliorer les fonctions du système nerveux central, il va falloir intervenir directement dans le cerveau. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, plus compliqué ou plus empirique, c'est l'exemple des maladies neurodégénératives. Maladie de Parkinson, Alzheimer, où on réfléchit à des interventions avec des gènes. Donc là, les interventions auxquelles on réfléchit sont indirectes, à savoir que ce qui se passe, c'est que des neurones dégénèrent et on essaye de contrer cette dégénération en faisant en sorte que soient synthétisés dans leur environnement des facteurs de croissance, des facteurs trophiques qui les maintiendraient en vie plus longtemps. Donc il y a aussi beaucoup d'activités autour de ça, il y a des modèles animaux qui servent à tester ce type d'hypothèse, et il y a des vecteurs de transfert de gènes qui permettent d'atteindre relativement efficacement le cerveau. Je veux en montrer deux ici. Première image, il s'agit d'une injection dans l'hippocampe d'un vecteur qui est dérivé du virus VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. Ce vecteur est extrêmement intéressant dans les cellules du cerveau, qui sont des cellules qui ne se divisent pas ou qui se divisent très peu. Et ce vecteur a ici un avantage très, très intéressant. On voit ici chez le rat qu'à la suite d'une injection simple, on a un nombre considérable de cellules dans l'hippocampe qui sont ici qui apparaissent en plus foncé, qui ont reçu le gène et qui l'expriment. Ici, on révèle par la coloration la protéine qui est synthétisée par le nouveau gène. Un autre exemple un peu différent qui concerne la même aire cérébrale, l'hippocampe, dans laquelle on a injecté un vecteur dérivé d'un adénovirus particulier, c'est-à-dire c'est un adénovirus qui ne vient pas de l'homme mais qui a été isolé à partir du chien, ce qui offre un certain nombre d'avantages pour l'immunité préexistante. Mais ce sont des travaux donc, dans lesquels on a isolé ce vecteur et on l'a injecté de la même façon dans l'hippocampe. Alors, au niveau du site d'injection, l'hippocampe ici, on voit un petit peu de coloration qui donc signale la présence du nouveau gène, mais cette coloration est relativement modeste. De façon très intéressante, on est allé voir les neurones qui lancent des projections dans cette aire cérébrale. Vous savez que le cerveau est fait de connexions diverses et variées et de zones qui projettent, qui projettent leurs axones dans d'autres zones. Donc il y a un certain nombre de neurones du cortex qui projettent dans cette région de l'hippocampe. Et si on remonte et qu'on regarde cette région du cortex, on voit que là, le transfert de gènes est très efficace. Donc ce qu'on révèle ici, c'est qu'en fait, à la suite d'une injection, le vecteur est capable de remonter sur les neurones qui apportent des projections ici. Donc ça offre d'autres possibilités thérapeutiques. Ça veut dire qu'à partir d'un point d'injection, on va pouvoir éventuellement irradier toute une zone et on va aussi pouvoir peut-être transférer des gènes à des zones qui ne sont pas directement accessibles ou pas facilement accessibles à l'injection. Donc ça ouvre des perspectives qui sont encore à tester, bien entendu. Bien. Je voulais simplement montrer ici l'extrémité d'un capillaire sanguin qui est ici formé d'une seule cellule endothéliale. Donc ici, on a la lumière du capillaire. Et c'est ce genre de structure que le vecteur de transfert de gènes injecté dans la circulation va rencontrer in fine. D'accord ? Et c'est ce genre de choses qu'il va devoir franchir. Là, il y a une jonction extrêmement serrée, qui est ici, qui est extrêmement, extrêmement forte. Et si on veut que le vecteur qui est ici traverse et atteigne, par exemple, les cellules musculaires dont on parlait tout à l'heure, il va falloir appliquer des traitements particuliers pour que cet endothélium s'ouvre. Alors là, on connaît des moyens de faire ça, qui sont en général des moyens assez toxiques et assez méchants, mais il y a un certain nombre de travaux qui visent à trouver des moyens plus acceptables de faire ce genre de choses. Et l'enjeu est important parce que les images de transfert de gènes aux muscles que j'ai montrées tout à l'heure concernent des injections locales. Quelques fibres autour d'un site d'injection qui reçoivent le gène et qui l'expriment. L'enjeu, si on parle de maladies musculaires et de dystrophie musculaire, c'est de soigner l'énorme quantité de muscles qu'il y a dans un organisme. Donc pour ça, on ne peut l'imaginer que si on arrive à faire diffuser partout le vecteur de transfert de gènes et donc à lui faire traverser l'endothélium vasculaire de manière efficace. Alors, simplement, une illustration du fait que ces choses-là sont possibles. Vous avez ici un muscle qui a été injecté avec un vecteur de transfert de gènes, mais en appliquant une pression assez forte pour que l'endothélium respire un peu, soit de manière transitoire ouvert. Et on constate qu'au voisinage des vaisseaux sanguins, les cellules musculaires, ici c'est figuré en bleu, ont reçu le transgène et l'expriment. Donc il existe des possibilités. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore acceptable, enfin qui n'est pas acceptable pour un patient, parce que c'est un petit peu traumatique quand même, mais on peut réfléchir à des façons d'ouvrir l'endothélium, et c'est quelque chose qui sera important dans le futur. Bien, donc j'en ai fini avec les démonstrations de faisabilité, et je voudrais juste faire le point très rapidement pour conclure sur la situation en clinique. Où en sommes-nous ? Comment est-ce que tout ça se traduit dans des essais cliniques ? Alors, depuis l'essai dont j'ai parlé tout à l'heure en 1990, il y a eu plus de 400 essais qui ont été mis en œuvre dans le monde. La plupart de ces essais ont eu lieu aux États-Unis. Il y en a entre 15 et 20, je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, qui ont été organisés en France. Et ça concerne plus de 3000 patients. Alors, je représente ça ici par pathologie. Les pathologies concernées, vous le constatez, c'est essentiellement, dans 65% des cas, le cancer. Alors, c'est peut-être un petit peu paradoxal pour des stratégies qui, au départ, avaient été pensées pour le traitement de maladies génétiques rares. Elles n'arrivent ici qu'en deuxième position, avec 13% des essais. Mais c'est compréhensible dans le sens où, d'abord, il y a une culture d'essais cliniques qui est très importante dans le cadre du cancer. Les cliniciens qui s'occupent de patients cancéreux ont un savoir-faire d'essais cliniques très important et savent tester des nouvelles molécules. Il y a d'autre part un intérêt économique, un enjeu économique qui est bien supérieur pour la population atteinte de cancer que pour la population atteinte d'immunodéficience sévère dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc un intérêt pour l'industrie pharmaceutique et vous savez que ces essais cliniques coûtent cher, il y a besoin de beaucoup de moyens et tout ça explique la prédominance des essais dans le cadre du cancer. Voilà, alors que dire de ces essais en général ? Je crois que j'ai cité les deux cas qui d'ailleurs concernent des maladies génétiques rares. J'ai cité les deux cas qui, à mes yeux, sont les plus démonstratifs qu'il sera possible de faire quelque chose par transfert de gènes dans certains cas. Et si on doit donner des échéances, parce que je sais que c'est souvent la question qui est posée, je dirais que vraisemblablement dans les 5 ans, 5 à 10 ans, on pourra disposer de traitements pour des cas extrêmement particuliers et éventuellement extrêmement rares. Pour ce qui est du cancer, il y a beaucoup d'activités autour de ça, mais l'approche est beaucoup plus empirique et surtout les démonstrations cliniques sont plus difficiles à faire. Pour une maladie comme le cancer, il faut beaucoup de recul. Il faut déjà 5 ans de recul, sans doute, sur un patient pour arriver à savoir si on l'a véritablement guéri ou pas, si véritablement Le médicament est un médicament, il faut le comparer aux médicaments qui existent déjà. Enfin, c'est quelque chose de compliqué et de long, mais si on est optimiste, et vu l'ampleur des essais cliniques, de l'activité des essais cliniques, on peut se dire que dans les 10 ans, il y aura éventuellement des traitements proposés. Ça restera des traitements qui seront sans doute rares, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on trouvera dans les pharmacies. Ce sont des traitements qui seront vraisemblablement faits en association avec de la chimiothérapie classique, par exemple, mais qui vraisemblablement ouvrent les portes à des améliorations dans les traitements habituels du cancer. Autre 4%, ça inclut les premiers essais qui concernent le système cardiovasculaire, et ça, c'est aussi quelque chose qui est appelé éventuellement à se développer. Les maladies neurodégénératives dont j'ai parlé, c'est encore quelque chose de très expérimental. Il n'y a pas d'essais cliniques aujourd'hui, mais dans le cas de Parkinson, certains groupes pensent à commencer des essais. C'est la même chose, c'est des choses qui prendront longtemps à se finaliser et à devenir des véritables traitements. Voilà, je souhaite m'arrêter là, j'ai déjà été un petit peu long, et s'il reste du temps de répondre à vos questions. Merci. Madame.
Merci. Dans le cadre du patient qui a bénéficié d'une injection de gène pour restaurer son, enfin pas pour restaurer, mais pour lui faire retrouver là un système immunitaire, il a retrouvé ce système complètement et sans avoir de besoin de stimulation ou d'autres thérapeutiques pour maintenir ce système en bon état. Et d'autre part, est-ce qu'on sait la durée de vie d'un gène modifié ?
Bien, alors, tout ça, ce sont des points très importants. Ce qui est clair et ce qui est remarquable dans cet essai, c'est que les patients traités, il y en a deux qui sont décrits, il y en a deux qui sont en cours et pour lesquels le même schéma est applicable. Ces patients retrouvent un système immunitaire qui est complet. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui analyser le répertoire immunitaire et on constate chez ces patients qui n'avaient rien, qu'ils retrouvent un répertoire complet, c'est-à-dire qu'ils sont capables de répondre à des agressions diverses et variées. Et c'était des enfants qui étaient dans des bulles, hein, qui ne peuvent pas sortir de leur bulle sans attraper des tas de choses, et ces enfants sont chez eux, depuis longtemps d'ailleurs. Donc tout ça est fonctionnel, tout ça marche bien, ils ont été vaccinés, ils ont répondu à la vaccination. Donc il y a une vraie fonctionnalité du système immunitaire qui est là. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Alors, là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça dure depuis 11 mois, je crois, maintenant. Donc, on est déjà assez sûr de soi et c'est déjà quelque chose qu'on peut appeler du long terme. Il n'est pas du tout impossible, il est même assez probable, si j'ai à parier, qu'on verra la chose décliner, on verra l'effet décliner et qu'il faudra peut-être retraiter ces patients. Mais là, on parle de peut-être un traitement tous les ans ou tous les deux ans pour des patients qui n'avaient pas de traitement du tout pour commencer. Donc, je crois qu'on parle d'un vrai médicament. Hein. Alors, pour aller plus précisément avec votre question sur le combien de temps est-ce qu'un gène reste, je dirais que ce n'est pas le gène qui reste dans ce cas-là, c'est la cellule. C'est-à-dire que les cellules qui vont produire le système immunitaire vont éventuellement s'épuiser au bout d'un moment et celles qui viendront pour les remplacer... n'auraient éventuellement pas reçu le gène thérapeutique. Donc c'est ça le problème. Le gène, une fois qu'il est là, dans le cas dont on parle ici, qui est l'utilisation d'un rétrovirus recombinant, le gène est inséré dans le chromosome. Donc tant qu'il y a une cellule et tant qu'elle a ses chromosomes, ce qui est le cas de toutes les cellules qui sont viables, le gène reste. Donc c'est une modification permanente des cellules. Alors, pour modérer ce que je viens de dire, on peut dire qu'on a décrit certains cas où le gène reste toujours, c'est clair, mais éventuellement il s'éteint, c'est-à-dire qu'il n'est plus exprimé. Il n'y a pas d'évidence que dans ce cas-là, ça se passe. C'est quelque chose qu'il faudra vérifier aussi. Donc l'expression du gène peut éventuellement également décliner, ce qui peut conduire à la nécessité de renouveler le traitement.
Les... Oui, bonjour. Les virus utilisent les cellules, enfin les noyaux des cellules, pour se reproduire. Est-ce que les particules virales dont vous parlez, modifiées, ont gardé cette capacité-là? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ce n'est pas un moyen justement d'envisager la prolifération dans tout l'organisme?
C'est normalement ce qu'on cherche à éviter. D'accord, c'est-à-dire qu'on enlève tous les gènes du virus qui permettent de faire plus de virus. D'accord. Donc, la réponse est non. Il n'y a pas de réplication virale, il n'y a pas de production de virus dans la cellule modifiée. Il peut y avoir éventuellement expression de certains gènes viraux dans le cas de certains vecteurs, et ça conduit d'ailleurs à des problèmes, parce que les vecteurs ne sont pas suffisamment au point, je dirais. Mais idéalement, non. Alors, cela dit, il y a des équipes qui ont pensé à faire exactement ce que vous dites, à savoir d'avoir des vecteurs réplicatifs qu'on va injecter à un endroit et qui vont pouvoir se multiplier. Il y a quelques démonstrations chez la souris que ça peut éventuellement améliorer les choses. Je dirais que c'est encore assez embryonnaire, mais c'est une idée qui est là. Le problème, c'est que on va avoir une infection virale, une réaction immunitaire contre. C'est des choses qu'il va falloir savoir contrôler. On complique beaucoup le problème, là. Mais enfin, c'est pas complètement absurde.
A priori, il vaut mieux modifier des cellules basales plutôt que des cellules différenciées. Vous avez fait, par exemple, allusion à une maladie des globules rouges. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en modifiant les cellules basales, on modifie l'ensemble, à la fois des cellules rouges et des cellules blanches, par exemple ?
Oui, donc ce que je dirais, c'est qu'il est préférable de modifier les cellules basales parce qu'on aura un renouvellement constant. Si on modifie les cellules différenciées de manière terminale, elles vont avoir leur durée de vie normale d'une centaine de jours et ensuite il n'y en aura plus. D'accord ? Alors, si on modifie les cellules basales, on va effectivement modifier génétiquement l'ensemble des cellules. Si on corrige, on va corriger partout. Ça peut être un problème, effectivement, et il faut veiller, et on peut se donner les moyens de faire en sorte que le gène thérapeutique ne soit exprimé, c'est-à-dire que la protéine ne soit synthétisée que dans certains lignages cellulaires, par exemple dans les globules rouges. Il existe des éléments de contrôle de la transcription des gènes qui sont spécifiques de certains types cellulaires et très spécifiques dans le cas de la lignée rouge, qu'on peut inclure dans le vecteur de façon à ce que le gène ne soit exprimé que dans la lignée considérée.
Pour quelles raisons, à l'origine, un gène devient-il anormal? Et pour quelles raisons des garçons sont atteints et non les filles, et les filles sont atteintes et non les garçons?
Alors pourquoi est-ce qu'un gène devient anormal? Le génome, notre ADN, est soumis à des mutations, de la mutagénèse en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des lésions, par exemple parce qu'il y a des rayons du soleil, par exemple parce qu'il y a du stress qui produit des radicaux libres, etc. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que l'ADN n'est pas absolument inaltérable et en permanence change. D'accord ? En permanence, il y a des erreurs qui se créent et qui sont corrigées ou qui ne le sont pas. D'accord ? Si une de ces erreurs se crée dans les cellules sexuelles, dans la lignée germinale, elles sont transmises à la génération d'après et c'est là qu'on a un problème. Si l'erreur cause un problème. D'accord ? Donc, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de votre question, excusez-moi. Oui, voilà, garçon ou fille. Alors, garçon ou fille, c'est assez simple. Il y a beaucoup de maladies génétiques qui touchent également les garçons et les filles. Simplement, il y a une catégorie de maladies génétiques qui touchent des gènes qui sont sur le chromosome X. Et donc, vous savez que les garçons ont un chromosome X et un chromosome Y, c'est-à-dire qu'il suffit d'une mutation sur un des chromosomes X pour que le garçon soit malade. Donc la maladie est révélée chez les garçons et pas chez les filles qui ont deux copies et qui ont une copie qui compense. Donc les filles transmettent à leur fils, mais ne sont pas elles-mêmes malades. Donc ça, c'est l'hérédité liée à l'X. Donc l'hémophilie, c'est le cas. La dystrophie musculaire de Duchenne, c'est le cas. Enfin, il y a beaucoup de maladies comme ça qui sont liées à l'X. Et on les voit plus parce qu'elles sont révélées plus facilement dans la population à cause du fait qu'une seule copie du gène muté suffit.
Est-ce qu'en l'état actuel des recherches, la thérapie génique permet d'espérer des améliorations dans les maladies psychiatriques ?
Je dirais que pas dans l'état actuel des recherches. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, je dirais, dans les recherches actuelles qui nous disent dans telle maladie psychiatrique, ça serait intéressant de transférer ce gène à tel moment, etc. D'accord ? Cela dit, le schéma est valable. C'est la situation, il se peut que la situation soit révélée à la faveur d'une meilleure compréhension qu'on va acquérir sûrement des maladies psychiatriques. Cela dit, je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de schéma thérapeutique applicable, comme j'en ai parlé pour Parkinson, par exemple, qui est pas directement ce qu'on appelle, j'imagine, une maladie psychiatrique, mais c'est une maladie de neurodégénérescence, et d'autre part, on a en main des gènes qui codent pour des facteurs trophiques. Donc on se dit très simplement que en mettant des facteurs trophiques, on va peut-être arriver à faire en sorte que ces neurones soient maintenus en vie. Je crois que dans le cas des maladies psychiatriques dont le déterminisme génétique n'est pas encore absolument clairement établi, c'est encore une situation complexe à laquelle on ne comprend pas grand-chose, enfin à mon niveau en tout cas, on ne comprend pas grand-chose, et donc il n'y a pas de schéma qui est discuté.
À propos des cellules neuronales, vous avez parlé d'un transfert vers d'autres neurones, mais je voulais savoir si c'était le transfert du gène ou de la protéine et comment elles passent les synapses.
Alors, non, il s'agit du transfert du gène je me suis mal exprimé si j'ai dit qu'il se transférerait à d'autres neurones. Ce sont des neurones qui n'ont pas leur corps cellulaire là où on a injecté, mais qui n'ont que leur projection. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que très vraisemblablement, ce vecteur particulier, et c'est une particularité de ce vecteur, reconnaît les terminaisons nerveuses et remonte au corps cellulaire qui, lui, est ailleurs dans le cerveau. D'accord ? On a vu ça aussi avec les motoneurones, donc qui ont des terminaisons au niveau des plaques motrices dans le muscle. Et si on va chercher le corps cellulaire dans la moelle, on retrouve le corps cellulaire, cette fois-ci, qui contient la protéine. Donc il n'y a pas de transmission entre les synapses, enfin, pas, on n'en a pas détecté, en tout cas.
Une avant-dernière question. Vous
voulez savoir s'il y avait des patients atteints de myopathie. Et quelle était la méthode employée?
Alors, il y a un essai clinique qui est en train de commencer ici à Paris, à la Salpêtrière, à l'Institut de Myologie, et qui est véritablement un essai de toute première phase. C'est-à-dire que là, c'est pas un essai où on ne recherche pas un bénéfice thérapeutique, on pose une question clinique. Il s'agit localement d'injecter le gène à des patients. Ce qu'on cherche à voir, c'est si effectivement, chez un patient humain, parce que ça n'a jamais été vu, on peut avoir une expression du gène correcte et durable dans le temps. Et on cherche également à savoir si chez ces patients à qui il manque la dystrophine, la protéine, lorsqu'on va leur remettre un gène qui va conduire à la synthèse de cette protéine, on cherche à savoir si on ne va pas avoir une réponse immunitaire contre cette protéine. Ce qui est important pour la suite, pour la conception des autres essais. Donc c'est vraiment des choses de toute première phase pour lesquelles il est clair qu'on ne va pas soigner ces gens-là, mais c'est très important de pouvoir commencer. Alors, il y a cet essai qui commence, il y a un essai qui a été commencé également aux États-Unis dans un autre type de dystrophie musculaire, avec un autre vecteur, mais avec les mêmes buts, c'est-à-dire quelque chose de très local, pour poser une question expérimentale en amont.
Merci. S'il vous plaît.
Oui. Oui, j'ai lu un entrefilet selon lequel aux États-Unis, il y avait un coup d'arrêt ou au moins un gros coup de frein qui avait été donné sur les essais cliniques suite à quelques morts qui en plus avaient été dissimulés. Pouvez-vous nous donner quelques précisions là-dessus ?
D'accord. Donc, j'ai souhaité garder ça pour la discussion, effectivement. L'histoire est la suivante. Il y a un patient atteint d'une maladie génétique rare qui touche une fonction du foie, qui a été traité par un vecteur adénoviral aux États-Unis, qui faisait partie d'une cohorte de plusieurs patients. Celui-ci a reçu une dose extrêmement haute. Et il est mort quelques jours après. Alors, il y a eu beaucoup d'émoi autour de ça, ce qui est normal. Bon, je souligne que ce n'est pas la première fois qu'un patient meurt dans un essai clinique en général. Hein. C'est-à-dire on prend des risques, etc. Mais là, les risques étaient beaucoup trop gros, avaient été les procédures qui devraient être suivies dans les essais cliniques avaient été suivies, je dirais, de manière un petit peu légère. Et la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'agence du médicament américaine, enfin, a fait une enquête serrée et a effectivement trouvé pas mal de vices de forme. Donc, ils ont tout arrêté. Ils ont également fait une enquête dans les autres centres qui ont commencé des essais cliniques. Et pendant cette enquête, ils ont dit « arrêtons tout, on va regarder ce que vous faites ». Et là, il y a un certain nombre de vices de forme qui ont été également mis en lumière. Je dirais qu'ils ne sont pas forcément... Je crois que la vie des autres patients, d'autres patients n'a pas véritablement été mise en danger. Il y a eu une erreur pour le premier. Pour les autres, il s'agit plus de vices de forme. Ce qui est important, et je crois que maintenant, ce qui est bénéfique, c'est que ces choses-là ne vont plus se passer. Alors, quant à la dissimulation de mort... Il y a eu un grave malentendu, il y a eu un flottement entre les cliniciens aux États-Unis qui ont mis en œuvre ces cliniques et les agences de contrôle, de réglementation des essais cliniques, c'est-à-dire d'une part la FDA et d'autre part le NIH, l'Organisation de recherche médicale américaine. Il y a eu beaucoup de flottements qui font que, d'après les investigateurs, ils ont, eux, donné leurs données au NIH, mais pas à la FDA, alors que la FDA aurait dû les recevoir. Enfin, il y a eu une sorte de quiproquo qui est maintenant mis à plat et qui ne se reproduira plus. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé à une situation avec les essais cliniques où il y a eu sans doute trop d'activités, trop vite, trop de pression, trop de compétition parmi les cliniciens. Je parle là des États-Unis. Qui a créé une situation un petit peu délétère et immanquablement, maintenant on doit absolument contrôler ça mieux. C'est ce qui est fait et je pense que en fait toute cette histoire sera bénéfique pour la suite.
S'il vous plaît, le génome c'est très vaste, il y a de nombreux chromosomes, il y a une carte très précise. Est-ce qu'on a le souci de la localisation des gènes implantés ? Vous n'en avez pas parlé, il me semble.
Non. Avec les vecteurs dont j'ai parlé aujourd'hui, on ne maîtrise pas la localisation du gène implanté. D'accord ? On a des moyens dans des cultures de tissu in vitro de corriger le gène là où il est. C'est des choses qui sont encore tout à fait, enfin trop peu efficaces pour que ça puisse être utilisé dans le cadre d'un organisme. Donc, ce n'est pas qu'on n'ait pas ce souci, idéalement, c'est ce qu'on voudrait faire. Simplement, dans beaucoup de cas, on considère que, même si c'est important à terme, on peut quand même avoir un avantage, un bénéfice thérapeutique tout à fait clair en mettant le gène, pour aller vite, je dirais, un petit peu n'importe où. C'est-à-dire, il y a de la place, effectivement, dans le génome, il n'y a que quelques pourcents du génome qui code, et les chances que toutes les chances sont là pour que le gène inséré soit dans une région neutre. Et d'ailleurs, on le constate si on fait le bilan des expériences qui ont été faites jusqu'à présent. Mais c'est effectivement un souci, et idéalement, un vecteur idéal, s'il est là pour réparer un gène, devrait aller le retrouver. Et il y a des tas de techniques très intéressantes qui existent pour faire ça, et une partie du travail aujourd'hui, c'est d'essayer de transférer ça, enfin, d'augmenter leur efficacité pour pouvoir le faire directement dans un contexte clinique.
Bien, merci beaucoup.